Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
On a beaucoup parlé de la grogne des enseignants. Les votes sont commencés. D'ailleurs, on a appris dans les dernières heures qu'un syndicat membre de la FAE a voté en faveur de l'entente de principe, autour de 58%. Et la question pour les commissaires ce matin, est-ce que la FAE ferait une erreur de retourner en grève si l'entente de principe était rejetée? Nathalie?
La réponse est oui. Oui, la FAE ferait une erreur. Pourquoi? Parce que, un, les enfants ont énormément souffert. Les enfants et les jeunes, écoute, ils ont été privés de quoi? 22 jours d'école. Il y a des jeunes là-dedans qui ne pourront peut-être jamais rattraper le retard qu'ils ont pris. Il y a aussi les parents puis les grands-parents qui ont été mis à contribution puis qui ont aussi beaucoup souffert. Combien de parents ont épuisé complètement leur banque de congés, leur banque de vacances, des parents qui ont été privés de salaire? Alors, tu sais, leur cour est pleine. Alors, je ne vois pas comment la FAE, s'il retournait en grève, c'est sûr qu'il y a des Québécois qui appuieraient la FAE. On s'entend, là. Hier, j'ai fait une ligne ouverte là-dessus. C'était assez divisé, mais il y a des gens qui continueraient d'appuyer la FAE. Mais ce serait une erreur parce que, il y a d'autres voies qui existent que celle de la grève. Puis je pense qu'ils ont épuisé, sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire en matière de grève. Ça s'appelle le dialogue et la négociation. Puis je me pose une question depuis là qu'on a appris que certains syndicats affiliés ne recommandent pas l'entente. C'est quel type de consultation a fait la FAE, les instances centrales, avec les syndicats affiliés pour que certains syndicats disent aujourd'hui ou recommandent à leurs membres de ne pas accepter l'entente? Quel genre de processus de consultation s'est mis en branle entre le moment où il y a eu un shake-in, où ceux qui ont négocié l'entente avec le Conseil du Trésor ont dit « Parfait, on s'entend, une entente de principe », et le moment où, et la façon dont cette consultation s'est faite. Alors, moi, je trouve que ce serait dommage, et je pense que à la fin de la journée, la FAE serait peut-être, je pense, serait perdante, plus perdante que gagnante s'il retournait en grève.
Bien, il y a plusieurs ex-syndicalistes qui se sont prononcés, Gérald Larose, parent aussi, qui a été lutteur justement en éducation, et qui ont dit non, il n'y aura pas de gains supplémentaires en retournant en grève. Là, il y a très peu de gains d'habitude dans une deuxième tournée. Il y a un moment à saisir, tu squeezes autant que tu peux, puis le moment à saisir, c'est le moment où tu as des mesures de pression massives, là, puis les mesures de pression, elles étaient importantes. Là, le gouvernement avait peur que ça ne revienne pas en classe après les fêtes, un mois sans école, c'est à son maximum. Là, tu retournes en égo, ben non, il ne se passera pas grand-chose, il faut ramasser des pinottes. Ça, c'est les négociateurs qui ont négocié longtemps avec le gouvernement qui disent ça. Ensuite, il faut voir pourquoi la FAE retournerait en grève. Moi, je pense que là-dedans, il y a une grosse frustration, il y a deux grosses frustrations. Il y a un écart entre les attentes puis les résultats. Les attentes sont très élevées. Quand tu t'en vas en grève générale illimitée, tu as des attentes très, très, très élevées. Quand tu te prives de 22 jours de salaire, tu as des attentes très, très, très élevées. Mais ce qu'a offert le gouvernement n'est pas négligeable. Loin de là, tu sais, quand tu regardes tout ce qui a été offert, la population a tendance à dire, ben écoute, vous avez gagné, là. Vous avez gagné un point, là. Hey, tu as des augmentations de salaire de 24% dans les échelons intermédiaires. 24%, ça s'est jamais vu.
Sur 5 ans.
6% la première année. De leur aveu même, c'est extrêmement rare. Ce qu'ils ont obtenu dans la composition de la classe, c'est pas négligeable non plus. Là, t'sais, ça réglera pas le problème, mais je pense que faut se poser la question, est-ce que sont allés au bout de ce qu'ils veulent avoir dans le système actuel? Moi, je pense que oui. Dans le système actuel, je dis pas qu'ils ont obtenu ce qu'il fallait pour régler les problèmes de lourdeur. Parce que quand tu dis que ça va comme les mécanismes d'aide vont déclencher à partir de pourcentages équivalents à 60% de cas-problèmes,
Moi, j'ai entendu hier à la télé puis à la radio aussi, on les a tous entendus, là, certains délégués de la FAE dire, ben c'est des pinottes, on n'a pas eu grand-chose. Honnêtement, je trouve qu'ils utilisent des raccourcis. Parce que si on compare, tu parlais des gains, Luc, là. Ouais. Moi, je compare FSE, TSQ, FAE. Bon, tu parles des gains de presque 24 % en termes d'augmentation de salaire sur 5 ans. 5 410 nouveaux postes permanents à temps plein. 5 journées pédagogiques sur 20 pour entreprises en télétravail. Puis 74 millions d'allègements pour la composition de la classe. Ça, c'est ce qu'a obtenu la FSE-CSQ. La FAE, 33 millions pour alléger la classe, la fameuse prime dont on a beaucoup parlé, jusqu'à 8 000 $ puis 4 000 aides à la classe. Alors, on peut pas dire qu'ils ont rien eu, là. C'est pas possible. Puis de manière très pragmatique, les gens disent, on voudrait tous savoir, là, demain matin, 4 000 aides à la classe, puis tous les orthopédagogues dont on a besoin, mais les ressources, elles ne sont pas au rendez-vous. Alors, on commence avec ce qu'on a, puis on continue de construire et de bâtir. D'ailleurs, ce qui serait intéressant, c'est qu'à partir du moment où l'entente de principe va être acceptée, que les textes vont être rédigés, est-ce que le gouvernement, avec les syndicats, pourrait, tu sais, bon, il pourrait prendre quelques semaines, voire mois de pause, mais rapidement se mettre au travail pour voir comment on peut continuer de bonifier une espèce de bonification en continu. Tu sais, comment on peut s'assurer de maintenir un climat qui va favoriser la rétention des professeurs dans les salles de classe, là.
Ça peut être, par exemple, des programmes déjà en cours, comme l'extension du programme de tutorat, par exemple, parce que ça serait une bonification importante.
Et ça marche tempête, ça. Ouais, ça fonctionne ça. Très, très bien.
Donc, ça serait une des possibilités. Moi, je pense qu'un autre élément de frustration, c'est justement ce que tu viens de dire, c'est la comparaison avec la FSE-CSQ. Donc, ils se disent, ouais, nous autres, on est allés 22 jours, eux autres sont allés 8 jours. On a-tu de quoi pour notre 22 jours par rapport à leurs 8 jours? La réponse, c'est non.
Et là, il y a un choix de, tu sais, il y a des stratégies là qui sont discutables.
Ouais, mais eux, ce qu'ils disent, c'est pas faux, c'est dire c'est nous qui avons mis la pression maximale. Sans notre pression, sans doute que les ententes n'auraient pas été signées au Front commun, puis n'auraient pas été signées à la FSE-CSQ. Alors nous, on aurait dû avoir plus, c'est pas faux. Mais ça marche pas.
Mais non,
pas
mais
même.
Tu peux pas avoir deux pas de types d'enseignants, non, deux employés selon le syndicat, puis
ça marche pas. Ça marchera pas comme ça. Tout le monde se déplacerait dans les officines de la FAE pour la prochaine le prochain maraudage.
Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est l'Alliance des profs de Montréal. C'est ce soir, je pense.
Eux, ils risquent de signer contre, là. Sont assez mobilisés.
Ben, ce qu'on entend, rumeur dans ma ville, là, ouais, c'est qu'ils ont mis pas mal de pression sur la FAE pour qu'il y ait une grève générale illimitée, là.
Ouais. Puis, est-ce qu'ils sont contents des résultats? Un point qui passe un peu inaperçu, là, les 5 000 contractuels qui vont devenir permanents, là, ça, c'est 5 000 nouveaux syndiqués, hein.
Ben oui, tout
ça,
à fait.
C'est sûr que ça, c'est le genre de petit bonbon en fin de négociation qui peut pas nuire, là.
Ouais. Absolument. Mais c'est bien, c'est très bien, parce que combien de fois on déplore le fait que des jeunes qui arrivent dans la profession puis se contentent de postes à temps partiel pendant des années. Ce qui m'étonne un peu, c'est les salaires. En fait, au premier échelon, on va passer de 49 000 $ en avril 2023, avril 2027 à 56 000. Je pose la question comme ça, là. Un jeune enseignant ou une jeune enseignante qui arrive, premier échelon, en avril 2027, elle va avoir un salaire de 56 000. Trouvez-vous que c'est satisfaisant? Si je pose la question, c'est que moi, je trouve que c'est pas tant 56 000, compte tenu des responsabilités qu'ils ont, compte tenu de l'intensité qui est associée à la tâche.
Et compte tenu de là où ils vont être assignés.
Oui, ben oui, souvent dans les classes où c'est plus difficile. Le dernier échelon, tu vois, avril 2023, 97 500, puis on passerait à 104 000 en avril 2027. Ça, c'est intéressant, mais ça prend combien d'années, un enseignant, avant d'atteindre le dernier échelon? Ça prend quoi, 15 ans?
Oui, je pense que c'est entre 13 et 15 ans.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, est-ce qu'il y a encore de la place sur le plan salarial pour le premier échelon? Ouais. Puis l'autre chose, c'est quand même particulier, il faut le dire. C'est sûr qu'il y a plusieurs syndicats, mais on a une école publique, puis dans notre école publique, ben là, t'as deux grands syndicats qui vont se retrouver avec des conditions de
travail légèrement différentes les unes des autres.
Avec des conventions qui sont différentes.
Oui.
Je trouve ça un peu particulier. Puis après ça, on va se désoler que dans notre système public.
On veut pas tout centraliser, Mme Normando. Il faut que ça soit à l'échelle locale, école par école, centre de service scolaire par centre de service scolaire.
Non, mais Monsieur Arcan, après ça, on se désole de notre réseau public. On a des disparités dans le réseau public, mais on a déjà une disparité dans la façon dont les conventions sont appliquées parce qu'elles sont négociées à des échelles variables. Quand tu es avec FSE, CSQ, c'est une chose. Quand tu es FSE, CSQ, c'est ça, puis c'est une chose. Quand tu es avec FAE, c'est autre chose.
Et là, je pense qu'il va y avoir tout un enjeu qui va s'amorcer là-dessus. C'est que la FAE, les syndiqués, les chefs, les membres des conseils d'administration puis de direction des syndicats FAE. La FAE s'est séparée de la FSE-CSQ en disant, nous autres, on va aller chercher plus. Ils s'en vont en grève générale illimitée en disant, nous autres, on va aller chercher plus. Ils s'en vont devant leurs membres en disant, on n'a pas obtenu plus que le syndicat dont on s'est séparé, qui a fait moins de jours de grève que nous. Prochain maraudage. Ça se pourrait que la FAE soit à la peine. Là. Ça se pourrait qu'il y ait des syndiqués qui disent, non, nous autres, là, on n'a pas eu pour notre argent. Et qu'on va aller avec la FSE. Donc, il y a une affaire, il y a toute une discussion syndicale en plus de la discussion sur
l'histoire
la santé.
L'histoire n'est pas terminée.
Voilà.
On fait une pause. Au retour, Luc veut parler de décroissance économique. Tout ça alors qu'à Davos, les politiciens et les riches sont en réunion.
Ici Patrick Marcellet. Dans la deuxième saison de mon balado Relève-toi, je reçois des personnalités d'ici qui ont su se relever après de difficiles épreuves.
Écoutez dès maintenant l'épisode avec Dominique Arpin.
Fait que je me suis dit, cette journée-là, je pourrais jamais avoir plus peur que ce que j'ai vécu dans le bureau du médecin lorsqu'elle m'a dit que j'avais un cancer puis que la masse était grosse comme un pamplemousse sur mon rein.
Relève-toi, disponible dans la section balado du site web de votre station Cogeco Média. Présenté par le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec. Ensemble, tissons l'espoir.
La commission Normando-Ferrandaise.
Bon, alors qu'on parle de croissance économique, Luc, François Legault veut que la croissance soit dans le tapis au Québec. Le Forum économique de Davos se tient présentement et là, on discute justement de prospérité, des grands enjeux de la société. Toi, tu veux nous parler de décroissance économique.
Mais je suis pas tout seul à vouloir parler de décroissance. Il y a une série à Radio-Canada qui vient d'être lancée. Mais pourquoi on parle de décroissance? Parce que le discours a jamais été aussi favorable à dénoncer ce qui se passe en environnement. C'est-à-dire que tout le discours des 20 dernières années, là, et on a commencé par un discours qui disait, ben, c'était pas si grave que ça, les gaz à effet de serre, prenez votre gaz égal, là, voyons donc. Ça a été, là, c'est en train de mourir pas mal, hein, t'entends moins ça, tu sais, à part quelques complotistes. Tout le monde dit, moi, regarde ça, l'immigration à travers le monde, là, les colonnes de centaines de milliers de personnes qui quittent leur pays, qui montent vers les États-Unis ou qui traversent la Méditerranée. Moi, peut-être que c'est un problème pour vrai, puis aussi le prix des aliments, puis aussi les sécheresses, puis aussi les cyclones. OK, ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que les moyens mis en place par les gouvernements pour faire face à ça s'avèrent pic-pic en simonac. Il n'y en aura pas de solutions technologiques, là. Toutes les maudites solutions technologiques sont en train d'être dénoncées les unes après les autres, t'sais. Par exemple, la biomasse, t'sais. On va dire, on va faire pousser des arbres. Ça fait de la captation carbone. Puis après ça, on va se servir de ces arbres-là pour faire de la biomasse. C'est-à-dire, soit pour faire du gaz, soit pour les brûler, de façon écologique. Et là, avec ça, on va produire du gaz naturel, renouvelable. Et on va produire de la chaleur qui a été produite par de la biomasse, puis c'est intéressant parce que là, ça fait pousser des nouveaux arbres qui captent du nouveau du carbone. Puis là, on s'est rendu compte que, finalement, ils coupaient des forêts anciennes. Fait que c'était un scheme pas possible, puis on s'en est rendu compte cette année, là. La captation du carbone. Le Canada compte sur la captation du carbone. Promène-toi avec une cuillère dans les airs, reste pogné du carbone, c'est à peu près la même affaire. Toutes les solutions de captation.
Et les centaines de millions d'arbres que M. Trudeau veut planter, t'en fais quoi?
Ben voilà,
les
c'est
milliards,
ça.
Ouais, c'est
mais
ça.
Pourquoi aujourd'hui, c'est encore plus là? Aujourd'hui, là. Le mi-janvier, pourquoi c'est encore plus amusant de parler de ça? C'est parce que le Canada se ridiculise jour après jour avec une solution qui supposément va diminuer la production de GES en deux en multipliant la population par deux. Ça ne peut pas fonctionner. Mais c'est tellement risible mathématiquement. N'importe qui, tu prends un enfant en cinquième année, tu dis, penses-tu que c'est possible, toi? On n'est pas capable d'atteindre nos cibles de gaz, réduction des gaz à effet de serre, mais on va doubler notre population. Ben, ça marche pas. Ça s'en va nulle part.
Mais t'es pour ou contre la décroissance, là?
Donc, le seul discours qui reste possible, c'est celui de la décroissance. C'est-à-dire, on s'en va dans le mur, bien raide, en termes de réchauffement climatique, puis collectivement, puis individuellement, il n'y a plus beaucoup de portes de sortie. Pas pour 2030, ça va. D'ici à 2020, on n'est pas en train de mourir. Là. On est dans le studio, on n'est pas en train de suffoquer. Là. Mais projetons-nous un petit peu. Là. Juste un petit peu, pas beaucoup, pas 2100, là, 2030, ça va être de plus en plus difficile. 2040, la production alimentaire va commencer vraiment à poser problème. L'augmentation de la population va se traduire en migration importante. 2050, là, on est vraiment dans du chaos social, là, du vrai chaos social, là, du démantèlement de pays puis tout. Fait que, qu'est-ce que toi, tu peux faire comme individu, là, tout de suite? Tu peux rien faire, OK? C'est pas parce que...
Tu peux diminuer ta consommation parce que c'est ça.
Ça sert à
rien. Il y a ça beaucoup derrière le discours de la décroissance économique.
Oui, mais Nathalie, ça, OK, je suis correct, j'entends, là. Mais il y a une affaire qui s'appelle l'effet rebond, OK?
Ouais.
Ça, c'est... Si vous avez un concept à comprendre, c'est l'effet rebond, OK? L'effet rebond, il y a toutes sortes d'effets rebonds, mais l'effet rebond, ça consiste à dire tout ce que toi, tu diminues, quelqu'un va l'augmenter. Mm-hmm. Par exemple, tu sais, au Québec, tu sais, on va prendre des plus petits véhicules, OK? On apprend ce matin, pas il y a 15 ans, ce matin, que les véhicules les plus vendus au Canada, c'est les Ford 100, la série F, Ford 100, 150, 250, 350. Bon. Toi, tu dis, OK, hey, là, on va se prendre en main. Hey, ça va faire. Hey, ça va faire. On se prend en main, puis on diminue nos véhicules. Ça va faire quoi? Moins de demande sur le pétrole? Diminution du coût de pétrole? Quelqu'un d'autre va en acheter plus à l'autre bout du Canada. Parce que ça diminue ici, quelqu'un d'autre va en acheter plus à l'autre. On va produire de l'aluminium pas propre, là. Hey, là, ça va faire. Là, on a de l'hydroélectricité. On va produire de l'aluminium propre. Ça va faire
quoi, ça? On produit déjà de l'aluminium propre.
Oui, puis là,
propre.
On a 96 nouvelles cuves qui s'en viennent. Puis là, la batterie verte du Québec, nous autres, on va produire pour le monde. Effet rebond, ça fait quoi? Ça fait que l'aluminium sale va coûter moins cher. Ça veut dire que l'aluminium produit en Chine puis en Australie va se vendre plus. C'est ça, l'effet rebond. C'est quoi que tu fasses dans ta petite bulle, si le monde entier décide pas de diminuer ensemble, ça donne à rien argent.
T'es optimiste ce matin, mon cher Luc. Go, on fait la bague. Mais tu
n'auras pas d'augmentation de salaire parce que le boss veut en avoir plus dans ses poches.
Oui, ben exactement.
Ce qu'il ne donne pas, il garde.
Exactement.
Bon, c'est ça l'effet rebond. Tout à fait. Quand tu dis, Luc, qu'il y a le seul discours possible, c'est la décroissance, ben moi, je trouve que tous ceux et celles qui ont embrassé ce concept qui est apparu dans les années 70, puis que défend ardemment la gauche caviarde, c'est la décroissance. Mais la décroissance, premièrement, on devrait parler davantage de croissance responsable plutôt que de décroissance, parce que tous ceux et celles qui défendent le concept de la décroissance oublient qu'avec la croissance économique, on peut payer nos services publics, parce que qui dit croissance dit création d'emplois. Fait que demain matin, tu sais, et puis d'ailleurs, il n'y a pas une juridiction sur la planète qui a embrassé ce concept de la décroissance. Ben oui, je me présente en politique, moi, pour créer moins de jobs, pour qu'on consomme moins. Tu sais, il n'y a pas personne qui dit ça sur la planète, absolument personne. Pourquoi? Parce que ça ne tient pas la route. D'ailleurs, les grands penseurs qui sont à Davos, là, ils parlent pas de décroissance, là. Ils sont préoccupés par quoi? Par le risque financier lié à l'augmentation des taux d'intérêt, par la croissance anémique affichée du côté de la Chine. Ils sont bien contents des performances du côté des États-Unis sur le plan économique. Ils sont bien contents que l'inflation ait diminué. Ce dont on devrait parler, selon moi, c'est davantage les inégalités de revenus entre les plus riches et les plus pauvres. Au Québec, on a une classe moyenne qui s'effrite de plus en plus. Puis si on n'a pas de classe moyenne, il se passe quoi? Les pauvres vont être encore plus pauvres, puis les riches vont être encore plus riches. Puis si on n'en parle jamais. Moi, je suis un peu tanné de ce discours-là. Il faut rouler en plus petit char, puis le maudit Ford 150, puis on roule en VUS pour s'en couper. Écoute, on est rendu qu'on va aller faire une thérapie parce qu'on roule en VUS tellement
moi, ce que je te dis, c'est justement parce que tu dis ce discours-là, c'est un discours d'enverdeur, puis qu'on n'a rien à faire, tu pousses des gens dans une voie où ils vont être mal pris.
On est déjà, Luc, mal pris.
Mais attends, je m'explique.
Collectivement, j'entends, parce que tu n'as pas parlé de surpopulation, là.
Ah, ben attends, ça
c'est un autre enjeu aussi.
Oui, d'accord. Je vais donner le pire effet rebond qu'il n'y a pas, OK, pour te montrer que le monde s'en va nulle part, là. Le pire effet rebond, c'est la production de pétrole aux États-Unis. Il y a une guerre entre la Russie puis l'Ukraine. Et là, les États-Unis, qui avaient quand même développé beaucoup d'énergie nouvelle et renouvelable, qui a fait des contrats avec Hydro-Québec pour avoir de l'énergie propre sur la côte Est, New York, New Hampshire, qui font des éoliennes, Massachusetts, la Californie, la géothermie, etc. Du gaz renouvelable. Là, ce pays-là, qui s'est engagé à coup, c'est Biden qui est au pouvoir, là, à coup de centaines de milliards de dollars dans l'environnement, dit « Oups, la Russie ne produit pas de gaz, pourra pas vendre son gaz, on va en faire plus. » Et là, ils se sont mis à faire plus de gaz et de pétrole qu'ils n'en ont jamais fait. Et donc, c'est sous Biden ça que ça se produit. Donc, dis-toi bien une chose, Nathalie. Là, l'environnement s'en vient dans la face de beaucoup de gens qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans. Nous autres, tout correct. Nous autres, on va... c'est quoi le conseil que tu donnes à ces jeunes-là?
Mais on est préoccupés pour tous ces jeunes-là qui nous suivent. T'as un enfant. Il y a des petits-enfants dans ma famille. C'est sûr que c'est extrêmement préoccupant. Puis on n'est pas égoïste au point de dire, voyons donc, on se fiche du genre de monde dans lequel on va leur léguer. Mais le conflit qui oppose Israël à la Palestine, celui qui oppose les Houthis, puis les États-Unis, puis le Royaume-Uni, là, dans le Moyen-Orient, la guerre contre l'Ukraine et la Russie, qu'est-ce qu'on peut, nous, contre ça? On est impuissants face à ça. Et ça, Luc, ces conflits sont apparus Alors que non, personne ne les souhaitait, en tout cas, dans le grand public, on s'entend. Puis deuxièmement, c'est venu complètement fausser l'agenda climatique. Et ça, on produit du pétrole, ben pourquoi? Parce qu'il faut livrer plus de chars, puis il faut livrer plus d'armement.
Mais, OK, mais alors, oui, alors on fait quoi? On fait quoi? On peut pas juste dire, c'est pas de notre faute, c'est la faute du monde entier. Moi, j'ai le même discours que toi, là. C'est-à-dire que c'est, il y en aura pas de diminution des gaz à effet de serre.
On n'a pas encore parlé d'intelligence artificielle.
Qu'est-ce qu'un jeune de 20 ans peut faire aujourd'hui? Puis comment on peut préparer la société pour qu'un jeune de 20 ans aujourd'hui se trouve pas le bec à l'eau? Ben, une coupe d'affaires. Essaye donc dans ta vie individuelle de commencer à réfléchir où tu vas habiter, ce que tu vas produire toi-même, ce que tu vas cuisiner toi-même, où tu vas faire tes loisirs, comment tu vas voyager, comment tu vas partager, commence à te mettre dans ce mode-là parce que tu n'y arriveras pas du jour au lendemain. Mais sur 10 ans, sur 20 ans, quelle ville, Granby, ça va avoir l'air de quoi dans 20 ans? Ça pourrait être une ville avec un centre-ville un peu plus fort, avec des logements autour où les gens sont pas obligés de prendre leur voiture. Ton chalet, es-tu obligé d'être à 3 heures de chez vous? Parce que tu seras pas capable de payer le gaz pour aller à ton chalet. Oublie ça, là, ouais. Tu seras pas capable.
Mais Luc, je comprends ce que tu dis, mais un des meilleurs remèdes à la décroissance, là, ça s'appelle l'inflation. Regarde ce qui se passe actuellement. Les gens qui vont de moins en moins dans les restaurants, les pauvres restaurateurs qui s'arrachent la tête, tu sais, enfin.
On multiplie ça par 2 ou 3 pour les 20 prochaines années.
Ouais, mais c'est un grand sujet, Paul, hein? C'est un très, très grand sujet.
C'est sûr.
La décroissance, mais enfin, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce grand forum actuellement à Davos. Beaucoup d'hypocrisie. Monsieur Arcand, on sent que vous voulez dire quelque chose.
Non, mais je vais conclure, parce qu'il faut aller à la pause, mais. Ouais. Ça m'a rappelé un patron que j'ai eu qui, quand elle allait le voir pour une augmentation de salaire, puis là, il dit, OK, tu gagnes quoi? Elle dit, je gagne tant. OK. Moi, je suis tatoué, là, je couperais un petit peu sur l'alimentation.
Il disait ça pour vrai?
Oui. Puis un petit peu moins de loisirs, tu vas finir par arriver avec ce que t'as. Fait que t'avais pas d'augmentation. Il n'y avait pas de croissance.
Lui, c'était un précurseur.
C'était un précurseur. Il t'aidait, tu comprends?
On peut savoir un nom?
Non.
C'est 23.
Vous grillez des guimauves à la perfection au-dessus d'un feu de camp qui crépite dans la nuit. Les flammes se reflètent et dansent sur la carrosserie lustrée de votre nouvelle Toyota qui se recharge dans le crépuscule. Une cigale chante à votre oreille. OK, lui, c'est un maringouin. Mais une chose est sûre, c'est que l'aventure vous appelle et que c'est l'occasion rêvée avec la vente étiquette rouge présentement en cours chez Toyota. Profitez-en pour magasiner votre BZ4X 2024. Visitez achetezmatoyota.ca ou un concessionnaire Toyota du Québec dès aujourd'hui.